Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. L'arbre suivant, vous pouvez écouter le magazine culturel qui sera suivi par l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. L'Indonésie et l'Arabie Saoudite ont convenu d'augmenter le commerce de 15% par an. La Banque d'Indonésie, ASEAN Plus 3, sont d'accord sur trois étapes de renforcement des marchés financiers. L'Indonésie et le Timor-Leste ont signé un accord de la coopération dans l'ingénierie industrielle. Les ministres des Affaires étrangères de l'Indonésie, des Philippines, mènent des réunions trilatérales pour discuter la sécurité des eaux. 15 chercheurs adolescents indonésiens suivront le concours scientifique Intel aux États-Unis. L'Indonésie a besoin de développer la centrale nucléaire thorium. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien et la Chambre de commerce de la Mecque ont convenu d'augmenter le commerce de 15% par an. En 2015, le montant de commerce entre l'Indonésie et l'Arabie Saoudite est élevé à 8,5 milliards dollars américains. Selon le président de la Chambre de commerce de la Mecque, Maher Jamal, ce chiffre ne représente pas le potentiel des deux pays. Pourtant, l'Indonésie et l'Arabie Saoudite ont une bonne relation dans le domaine de la politique et de la culture. Dans la mission commerciale tenue à Jakarta le mercredi 4 mai, Maher Jamal a déclaré que le gouvernement indonésien et la Chambre de commerce de la Mecque ont convenu d'augmenter le commerce des deux pays.
ونجد أن من واجبنا كغرف تجارية تسهيل التعامل بين التجار بينهم مع بعضهم.
Lors de cette réunion, nous avons convenu d'augmenter le commerce de 15% par an jusqu'à 5 prochaines années. Ensuite, nous avons également convenu de renforcer les relations bilatérales par le biais de l'augmentation des transactions en augmentant les visites mutuelles des hommes d'affaires des deux pays et de réaliser les sites qui sont respectueux directement des intérêts des entreprises. Maher Jamal a déclaré que l'Indonésie et l'Arabie Saoudite avaient convenu d'éliminer les obstacles du commerce des deux pays et d'encourager les règles claires et exactes pour la création d'une entreprise favorable. Dans ses missions commerciales, 40 hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite ont assisté et ont rencontré des hommes d'affaires indonésiens. Dans la même occasion, le conseiller du ministre du Commerce chargé du commerce des services, Arlinda, a déclaré que les hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite avaient un grand intérêt à coopérer dans le domaine des infirmiers professionnels, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et dispositifs médicaux. L'Arabie Saoudite est également intéressée à coopérer dans le secteur de l'industrie automobile et accessoires automobiles, la construction et les matériaux de construction, les textiles, produits agricoles, plantations, la nourriture et des boissons, des signes d'intérieur, des bijoux et d'autres secteurs d'affaires. La Banque d'Indonésie et le gouvernement, en collaboration avec les pays de l'ASEAN Plus 3, impliquant aussi le Japon, la Corée du Sud et la Chine, ont convenu de 3 coopérations de renforcement des marchés financiers, ce qui est le résultat de la réunion des directeurs des banques centrales et le ministre des Finances à Francfort, l'Allemagne. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, M. Agus Martowardoyo, a déclaré à Jakarta mercredi que les 3 étapes étaient d'abord l'augmentation de la facilité de liquidité à court terme pour l'échelle régionale avec le cadre de la coopération de l'initiative de Chiang Mai Multilatéralisation ou CMIM. Deuxièmement, le renforcement de l'unité de surveillance du niveau régional, à savoir l'efficacité du Bureau de la recherche macroéconomique ou ASEAN Plus 3 Bureau de la recherche macroéconomique ou AMRO. Troisièmement, est l'approfondissement des marchés financiers afin de mieux développer les marchés obligataires dénommés de la monnaie locale régionale dans le cadre de l'initiation des marchés obligataires asiatiques. Troisièmement, est l'approfondissement des marchés financiers afin de mieux développer les marchés obligataires dénommés de la monnaie locale régionale dans le cadre de l'initiation des marchés obligataires asiatiques ou ABMI. Selon Agus, pour l'Indonésie, la coopération l'ASEAN Plus 3 est très importante. La fourniture de la facilité de liquidité à court terme aidera chaque pays à anticiper et répondre à la crise financière. Ensuite, le renforcement AMRO encouragera la stabilité économique et financière de l'Indonésie à travers l'évaluation des conditions économiques dans ce pays qui sont réalisées dans le bureau. Le ministre indonésien de l'Industrie, M. Saleh Husin, et le ministre de Commerce, de l'Industrie et de l'Environnement du Timor-Oriental, M. Constancio Pinto, ont signé le mémorandum d'accord sur la coopération de la technique industrielle. Cela vise à renforcer la coopération bilatérale dans le secteur industriel et appliquer la déclaration sur le nouveau partenariat stratégique afro-asiatique ou NPSAA. Cela a été déclaré par Saleh Husin à Jakarta mercredi. La déclaration a été produite au sommet afro-asiatique qui a eu lieu du 22 au 23 avril 2016 à Bandung. Afin de soutenir la mise en œuvre des activités de coopération technique du secteur industriel, selon le ministre Saleh, le ministère de l'Industrie a de diverses unités sous la coordination de l'Agence de recherche et de développement industriel qui sont compétents dans leurs domaines respectifs à l'échelle internationale. Le programme est réalisé y compris pour les pays voisins Timor-Leste après la signature est réalisée. Le ministre espère que le mémorandum d'accord encouragera le développement de l'économie bilatérale des deux pays, à la fois dans le secteur de l'industrie, du commerce et l'investissement industriel. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a rencontré son homologue des Philippines, José René Almendras, pour discuter plus intensif la réunion trilatérale entre le gouvernement de l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie en ce qui concerne la sécurité des eaux territoriales. Le ministre philippin des Affaires étrangères visite l'Indonésie dans le cadre de la réunion trilatérale qui a eu lieu à Yogyakarta le 5 mai 2016. La réunion trilatérale est menée en vue de la situation de la sécurité dans les eaux de la région de l'ASEAN, surtout dans la frontière de ces 3 pays qui interfèrent avec le piratage de navires par des groupes armés. Lors d'une réunion bilatérale avec le ministre philippin des Affaires étrangères, La ministre Ratna Marsudi a remercié pour le soutien du gouvernement philippin dans le processus de libération des 10 citoyens qui ont été pris en otage par le groupe Abu Sayyaf. En outre, le gouvernement de l'Indonésie et les Philippines continuent à établir une bonne coopération dans les efforts pour libérer les 4 citoyens indonésiens qui sont toujours retenus en otage de l'Abu Sayyaf. En plus, la situation sécuritaire dans les eaux de la région, dans cette réunion, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont également discuté de la frontière, la coopération économique, la protection des citoyens indonésiens, la coopération de l'ASEAN et les questions régionales et internationales qui deviennent l'intérêt commun. 15 chercheurs adolescents dans certain nombre de lycées suivront la compétition du Salon international Intel de la science et de la technique qui se tiendra aux États-Unis du 8 au 15 mai 2016. La Zone d'ingénierie de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, entend également le chef du comité d'examen scientifique, Laksana Trihandoko, a déclaré qu'actuellement, l'Indonésie obtenait l'augmentation du quota des projets de recherche qui peuvent participer à Intel, ICEF. Les adolescents qui sont envoyés dans ces compétitions sont des gagnants du 47e concours de recherche de la jeunesse en 2015, organisé par LIPI, et le vainqueur de l'Olympique des recherches des étudiants indonésiens en 2015, organisé par le ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Selon le secrétaire de LIPI, Mme Siti Nuramaliati Priyono, cette activité a pour but que les adolescents peuvent plus aimer les activités de recherche comme l'un des efforts visant à accroître la compétitivité de ce pays au niveau global. Le ministre de l'Industrie, M. Saleh Husin, a déclaré que l'Indonésie a besoin de développer la centrale nucléaire thorium pour répondre à la fourniture d'énergie pour l'industrie. La source de matière première de thorium abondante en Bangka Belitung. Il est très nécessaire parce que dans le futur, le besoin énergétique pour l'industrie est très grand et certainement à un prix compétitif. Saleh Husin, dans un communiqué de presse mercredi, a déclaré que les ressources en thorium à Bangka Belitung a atteint 160 000 tonnes. Selon le calcul, une tonne de thorium peut produire 1 000 MW par an. Alors, la quantité de matière première est suffisante pour faire fonctionner 170 unités de centrales pendant 1000 ans. Selon le membre du Conseil national de l'énergie, Dr. Tumiran, la fourniture d'énergie pour l'industrie est très importante pour la fiabilité de l'économie, l'emploi et l'indépendance. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire. La pugnacité de la Commission pour l'éradication de la corruption, ou KPK, continue, ce qui devient un condamné étant agent d'application de la loi. Un greffier de la Cour de district de Jakarta est poursuivi juridiquement, lié à pot-au-vin présumé pour l'affaire de réexamen au PK. Les échos de l'affaire sont plus grands quand il y a des indications de l'implication d'un haut fonctionnaire à la Cour suprême. Cela est susceptible de compléter la meilleure note de KPK dans l'éradication de la corruption en Indonésie. Plus tôt en 2014, l'ancien juge en chef Akil Mohtar a été reconnu coupable et soumis à l'emprisonnement à vie dans les cas de corruption et blanchiment d'argent. Le sérieux de la nation indonésienne pour éradiquer la corruption est évident en chassant activement les corrupteurs par KPK, ayant de ceux qui sont à un niveau inférieur au niveau supérieur, que ce soit les gens ordinaires et les fonctionnaires de haut rang, qu'une coque impliquée sera punie. Perte potentielle, l'état des milliards de rupiah a été également éliminé avec succès depuis que la Commission a commencé ses activités en 2003. Cette réalisation ne peut pas être séparée du grand soutien de toutes les composantes de la société. L'escorte publique est évident lorsqu'il y a les efforts de réviser la loi numéro 30 de 2002 sur la Commission d'éradication de la corruption, ou KPK. Grâce à la présence du public derrière la Commission, les partis qui vont essayer d'affaiblir la KPK ont finalement battu en retraite. Personne ne peut pas garantir un comportement corrompu via disparaître de la civilisation humaine. De plus, en ligne avec le développement de la civilisation elle-même, a donné lieu à des exigences de la vie et une plus grande tentation. Dans de telles situations, ce que nous pouvons assurer est la mise en œuvre des efforts de respect de la loi en continu, y compris aux agents d'application de la loi. Nettoyer les agences d'application de la loi des fraudes et irrégularités affectera la psychologie du peuple. Par conséquent, le succès de l'application de la loi envers les agences d'application de la loi sera un atout important pour maximiser les efforts d'application de la loi dans toute la vie de la nation et de l'État. En outre, il ne fait aucun doute de l'importance de la synergie de la compréhension mutuelle entre les pays. Sans coopération, les criminels peuvent esquiver ou fuir pour cacher ou dissimuler les résultats du crime dans un autre pays. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, l'Indonésie est très reconnaissante pour le soutien de plusieurs pays, si bien que récemment, un certain nombre de fugitifs a été arrêté à son repère à l'étranger. Avec les agences d'application de la loi qui étaient propres et le soutien d'autres pays, les agences vont réfléchir doublement, enterrer la REF pour essayer de réformer ce que lui a mandaté. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 5 mai 1961, l'astronaute Alan B. Shepard, le premier Américain à voler avec succès dans l'espace. Il a volé avec succès dans l'espace avec la capsule Freedom 7 Mercury. Il est devenu la deuxième personne dans le monde après Yuri Gagarin de la Russie et le premier Américain à voler dans l'espace. Dans les 15 minutes de son vol au-delà de l'orbite terrestre, il a déclaré être en mesure de voir la côte d'ouest de la Floride, le golfe du Mexique et le lac Okeechobee en Floride. Le 5 mai 2004, Abdul Mukti Ali est mort. Professeur Dr. Haji Abdul Mukti Ali est une personne de la réforme islamique qui a pionné le libéralisme de la pensée islamique à l'ère de l'Indonésie moderne. Il est aussi connu très modéré et apprécié le pluralisme, à la fois dans la communauté islam, interne et externe, en dehors l'islam. De 1971 et 1978, il est devenu ministre de la Religion du gouvernement Suharto. Le 5 mai 2007, un accident d'avion de Kenya Airways du vol 507 reliant les villes Abidjan, Douala et Nairobi. L'avion en Boeing 737-800 qui avait décollé de l'aéroport international de Douala vers minuit 10 heure locale et devait effectuer le trajet à destination de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi où il devait arriver vers 6h10 du matin. Environ 105 passagers et 9 membres d'équipage sont morts. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à notre antenne, la Voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée Les travailleurs et les produits indonésiens doivent être prêts à faire face à la communauté économique de l'ASEAN. La commémoration de la Journée mondiale des travailleurs, dimanche 1er mai, devient l'attention des syndicats, des hommes d'affaires et des autres fonctionnaires du gouvernement Bekasi liés à la communauté économique de l'ASEAN. La régence de Bekasi, Mme Neneng Hasanah Yassin à Bekasi, a déclaré récemment que la mise en œuvre de la CEA faisait tous les citoyens de l'ASEAN pouvaient aller en Indonésie. L'invasion des travailleurs étrangers doit être pensée ensemble. Les travailleurs, le gouvernement et les hommes d'affaires doivent augmenter leurs compétences. D'autres questions importantes et le comportement des travailleurs est également important pour les entrepreneurs. Pour cette raison, le gouvernement et la société ont signé un protocole d'accord. 30% de travailleurs doivent provenir des gens locaux. Cet effort pour augmenter le taux d'absorption du travail entre les populations autochtones de Bekasi a déclaré la régente de Bekasi, Mme Neneng Hasanah Yassin. Le gouverneur de la région spéciale de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, a rappelé que les travailleurs de Yogyakarta devaient avoir un certificat professionnel, parce que sinon, il est à craindre l'existence de travailleurs locaux seront marginalisés par les travailleurs étrangers. Sri Sultan a déclaré à Yogyakarta le dimanche que cette année fait partie de la communauté économique de l'ASEAN. En 2017, l'application du marché libre ASEAN-Chine et en 2020, et le marché mondial. Il n'y a pas d'autre choix. L'Indonésie sera entrée dans une concurrence entre les nations. Basée sur les normes de l'Organisation mondiale du commerce, les ressources humaines doivent avoir un diplôme et certificat professionnel. Sinon, les travailleurs étrangers qui sont entrés en Indonésie et ceux qui ont un certificat professionnel pourront remplacer les travailleurs locaux. Le gouvernement de Yogyakarta est en train de trouver la solution afin que les travailleurs locaux puissent obtenir les avantages du marché libre mondial. À cette fin, Sultan a souhaité l'Agence nationale de normalisation, ou BSN, en charge de la certification des produits industriels et des ressources humaines, puisse mener bien la tâche, de sorte qu'il fait le processus de certification. Les travailleurs devaient également être engagés à améliorer le professionnalisme. Selon Sultan, qui sont en concurrence non seulement des produits, mais aussi les travailleurs. Sri Sultan Hamengkubuwono X a également déclaré la question de l'aspect de la compétitivité, la qualité des produits, qui est un défi conjoint entre le gouvernement, les hommes d'affaires et les travailleurs. La haute compétitivité est absolument nécessaire parce que sur le marché mondial, il n'y a plus de sens de produits locaux car il n'y a pas de limite entre les produits locaux et les produits importés parce que les consommateurs choisiront le prix le plus abordable avec une meilleure qualité. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien et la Chambre de commerce de la MEC ont convenu d'augmenter le commerce de 15% par an. En 2015, le montant de commerce entre l'Indonésie et l'Arabie Saoudite est élevé à 8,5 milliards de dollars américains. Selon le président de la Chambre de commerce de la MEC, Maher Jamal, ce chiffre ne représente pas le potentiel des deux pays. Pourtant, l'Indonésie et l'Arabie Saoudite ont une bonne relation dans le domaine de la politique et de la culture. Dans la mission commerciale tenue à Jakarta le mercredi 4 mai, Maher Jamal a déclaré que le gouvernement indonésien et la Chambre de commerce de la Mecque ont convenu d'augmenter le commerce des deux pays.
ونجد أن من واجبنا كغرف تجارية تسهيل التعامل بين التجار بينهم مع بعضهم.
Lors de cette réunion, nous avons convenu d'augmenter le commerce de 15% par an jusqu'à 5 prochaines années. Ensuite, nous avons également convenu de renforcer les relations bilatérales par le biais de l'augmentation des transactions en augmentant les visites mutuelles des hommes d'affaires des deux pays et de réaliser les sites qui sont respectueux directement des intérêts des entreprises. Maher Jamal a déclaré que l'Indonésie et l'Arabie Saoudite avaient convenu d'éliminer les obstacles du commerce des deux pays et d'encourager les règles claires et exactes pour la création d'une entreprise favorable. Dans ses missions commerciales, 40 hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite ont assisté et ont rencontré des hommes d'affaires indonésiens. Dans la même occasion, le conseiller du ministre du Commerce chargé du commerce des services, Arlinda, a déclaré que les hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite avaient un grand intérêt à coopérer dans le domaine des infirmiers professionnels, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et dispositifs médicaux. L'Arabie Saoudite est également intéressée à coopérer dans le secteur de l'industrie automobile et accessoires automobiles, la construction et les matériaux de construction, les textiles, produits agricoles, plantations, la nourriture et des boissons, des signes d'intérieur, des bijoux et d'autres secteurs d'affaires. La Banque d'Indonésie et le gouvernement, en collaboration avec les pays de l'ASEAN Plus 3, impliquant aussi le Japon, la Corée du Sud et la Chine, ont convenu de 3 coopérations de renforcement des marchés financiers, ce qui est le résultat de la réunion des directeurs des banques centrales et le ministre des Finances à Francfort, l'Allemagne. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, M. Agus Martowardoyo, a déclaré à Jakarta mercredi que les 3 étapes étaient d'abord l'augmentation de la facilité de liquidité à court terme pour l'échelle régionale avec le cadre de la coopération de l'initiative de Chiang Mai Multilatéralisation ou CMIM. Deuxièmement, le renforcement de l'unité de surveillance du niveau régional, à savoir l'efficacité du Bureau de la recherche macroéconomique ou ASEAN Plus 3 Bureau de la recherche macroéconomique ou AMRO. Troisièmement, est l'approfondissement des marchés financiers afin de mieux développer les marchés obligataires dénommés de la monnaie locale régionale dans le cadre de l'initiation des marchés obligataires asiatiques. Troisièmement, est l'approfondissement des marchés financiers afin de mieux développer les marchés obligataires dénommés de la monnaie locale régionale dans le cadre de l'initiation des marchés obligataires asiatiques ou ABMI. Selon Agus, pour l'Indonésie, la coopération l'ASEAN Plus 3 est très importante. La fourniture de la facilité de liquidité à court terme aidera chaque pays à anticiper et répondre à la crise financière. Ensuite, le renforcement AMRO encouragera la stabilité économique et financière de l'Indonésie à travers l'évaluation des conditions économiques dans ce pays qui sont réalisées dans le bureau. Le ministre indonésien de l'Industrie, M. Saleh Husin, et le ministre de Commerce, de l'Industrie et de l'Environnement du Timor-Oriental, M. Constancio Pinto, ont signé le mémorandum d'accord sur la coopération de la technique industrielle. Cela vise à renforcer la coopération bilatérale dans le secteur industriel et appliquer la déclaration sur le nouveau partenariat stratégique afro-asiatique ou NPSAA. Cela a été déclaré par Saleh Husin à Jakarta mercredi. La déclaration a été produite au sommet afro-asiatique qui a eu lieu du 22 au 23 avril 2016 à Bandung. Afin de soutenir la mise en œuvre des activités de coopération technique du secteur industriel Selon le ministre Saleh, le ministère de l'Industrie a de diverses unités sur la coordination de l'Agence de recherche et de développement industriel qui sont compétents dans leurs domaines respectifs à l'échelle internationale. Le programme est réalisé y compris pour les pays voisins Timor-Leste. Après la signature est réalisée, le ministre espère que le mémorandum d'accord encouragera le développement de l'économie bilatérale des deux pays, à la fois dans le secteur de l'industrie, du commerce et l'investissement industriel. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a rencontré son homologue des Philippines, José René Almendras, pour discuter plus intensif la réunion trilatérale entre le gouvernement de l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie en ce qui concerne la sécurité des eaux territoriales. Le ministre philippin des Affaires étrangères visite l'Indonésie dans le cadre de la réunion trilatérale qui a eu lieu à Yogyakarta le 5 mai 2016. La réunion trilatérale est menée en vue de la situation de la sécurité dans les eaux de la région de l'ASEAN, surtout dans la frontière de ces trois pays qui interfèrent avec le piratage de navires par des groupes armés. Lors d'une réunion bilatérale avec le ministre philippin des Affaires étrangères, la ministre Retno Marsudi a remercié pour le soutien du gouvernement philippin dans le processus de libération des 10 citoyens qui ont été pris en otage par le groupe Abu Sayyaf. En outre, le gouvernement de l'Indonésie et les Philippines continuent à établir une bonne coopération dans les efforts pour libérer les 4 citoyens indonésiens qui sont toujours retenus en otage de l'Abu Sayyaf. En plus, la situation sécuritaire dans les eaux de la région, dans cette réunion, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont également discuté de la frontière, la coopération économique, la protection des citoyens indonésiens, la coopération de l'ASEAN et les questions régionales et internationales qui deviennent l'intérêt commun. 15 chercheurs adolescents dans certains nombres de lycées suivront la compétition du Salon international Intel de la science et de la technique qui se tiendra aux États-Unis du 8 au 15 mai 2016. La Juan d'ingénierie de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, en tant également le chef du comité d'examen scientifique, Laksana Trihandoko a déclaré qu'actuellement l'Indonésie obtenait l'augmentation du quota des projets de recherche qui peuvent participer à Intel, ISEF. Les adolescents qui sont envoyés dans ces compétitions sont des gagnants du 47e concours de recherche de la jeunesse en 2015 organisé par LIPI et le vainqueur de l'Olympique des recherches des étudiants indonésiens en 2015, organisé par le ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Selon le secrétaire de LIPI, Mme Siti Nuramaliati Priyono, cette activité a pour but que les adolescents peuvent plus aimer les activités de recherche comme l'un des efforts visant à accroître la compétitivité de ce pays au niveau global. Le ministre de l'Industrie, M. Saleh Husin, a déclaré que l'Indonésie a besoin de développer la centrale nucléaire thorium pour répondre à la fourniture d'énergie pour l'industrie. La source de matière première de thorium abondante en Bangka Belitung. Il est très nécessaire parce que dans le futur, le besoin énergétique pour l'industrie est très grand et certainement à un prix compétitif. Saleh Husin, dans un communiqué de presse mercredi, a déclaré que les ressources en thorium à Bangka Belitung a atteint 160 000 tonnes. Selon le calcul, une tonne de thorium peut produire 1 000 MW par an. Alors, la quantité de matière première est suffisante pour faire fonctionner 170 unités de centrale pendant 1 000 ans. Selon le membre du Conseil national de l'énergie, Dr. Tumiran, la fourniture d'énergie pour l'industrie est très importante pour la viabilité de l'économie, l'emploi et l'indépendance. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Nous continuons notre émission avec la rubrique quotidienne, le magazine culturel. Ce soir, nous vous invitons à visiter l'île volcanique Banda Omuluk. Les Moluques sont l'une des plus vieilles provinces d'Indonésie. L'histoire moluquoise a commencé à partir de l'ère des grands royaumes du Moyen-Orient. Banda se situe parmi un groupe de 10 îles. Cette île volcanique Banda est une île entièrement formée par le volcan. L'île volcanique Banda se trouve à la mer Banda, dans le sud-district Banda, les Moluques Central, en province des Moluques. Le volcan Banda s'élève à 656 mètres au-dessous du niveau de la mer et couvre une étendue de 734 hectares. En 1988, ce volcan a éclaté et détruit une partie des récifs coralliens qui l'entouraient ainsi que ceux de l'île Banda Besar. Selon une recherche de l'UNESCO, grâce à l'éruption du volcan Banda, la croissance des récifs coralliens là-bas est la plus vite au monde. Le développement des récifs coralliens nécessite 10 ans, tandis qu'ailleurs, il peut attendre plusieurs dizaines d'années. En raison de son potentiel sous-marin, aussi bien que ses paysages terrestres, en 1992, le gouvernement local a destiné l'île volcanique Banda à devenir un parc touristique naturel. Outre la beauté de ses paysages, l'île volcanique Banda offre divers animaux et notamment diverses espèces d'oiseaux endémiques. Sa position isolée exceptionnelle a permis le développement d'une flore riche et originale. Quand vous visiterez cette île, vous ferez un panorama de plages et de mer captivant. Comme cette île est inhabitée, il n'y a pas ni restaurant ni commerce là-bas. Pour atteindre l'île volcanique Banda, vous pouvez prendre un avion à partir d'Ambon vers Banda Neira. Le vol dure environ une heure. Si vous prenez un navire à moteur, cela prend environ 6 heures. De Banda Neira, le voyage se poursuit vers le marché aux poissons Banda Neira, où vous pouvez prendre un navire à moteur vers l'île volcanique Banda. La traversée dure environ une heure. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure le magazine culturel intitulé « La beauté de l'île volcanique Banda ». Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique de l'Indonésie en couleur. Ce soir, nous présentons l'information sur le conservateur alimentaire de la poule de Cannes. Le besoin de la nourriture continue d'augmenter, concomitant avec le taux de la croissance de population. Donc, maintenant, la production alimentaire continue à être augmentée, afin de remplir ce besoin. Malheureusement, dans l'accomplissement de la nécessité pour la nourriture, les humains ont souvent des problèmes, car il y a certains aliments qui sont périssables rapidement. La putréfaction peut être due à l'oxydation ou de coalition. Par conséquent, la technologie de la conservation des aliments est nécessaire pour rendre les aliments durs plus longtemps et aussi pour garder les nutriments. Pour conserver les aliments, il y a beaucoup de façons. La façon de conserver des denrées alimentaires en général peut être adaptée aux circonstances des denrées alimentaires, de la composition des aliments et le but de la conservation. En gros, il existe deux façons de préserver la nourriture, physiquement aussi bien que biologiquement. La technologie de conservation des aliments se développe, mais jusqu'à maintenant, il y a ceux qui utilisent une couche de cire pour conserver les aliments, comme les fruits et légumes. La cire est dangereuse pour la santé et doit être lavée et nettoyée avant qu'elle soit mangée. En voyant cette condition, Rezal Dian Eka Darmawan et Surya Diki Andrianto, les étudiants de l'Université Brawijaya Malang, font un conservateur alimentaire de déchets ou de la bagasse de canne. Le préservatif nommé Bagasse Edible Coating est adapté pour les légumes, les fruits et la viande. Ce conservateur alimentaire plaque des fruits de sorte que l'absence d'oxydation se produit. La nourriture devient durable. Ce revêtement de conservateur a été testé contre la pomme. Le résultat, de pommes durent 75 jours, tandis que les pommes qui sont pelées a duré 5 jours, pas pourrir. Les pommes peuvent être consommées immédiatement, ne doivent pas être lavées. En outre, sans danger pour la santé. Le travail des étudiants de l'Université Brawijaya ont remporté le deuxième prix dans la compétition International Engineering Invention and Innovation Exhibition 2016 à l'Université de Malaisie. Ils ont mis de côté 400 produits de la technologie d'innovation de création des jeunes de 20 pays à part la Pologne, les États-Unis, Hong Kong, la Thaïlande, l'Égypte, l'Irak, le Canada, l'Arabe, le Japon, la Chine, la Corée Sud et l'Inde. En plus de la médaille d'argent, les étudiants acquièrent également le prix spécial Honor of Invention de représentants de l'Organisation d'innovation de l'Inde sur la découverte. Auparavant, Reza et ses collègues ont développé le conservateur de fruits, du reste du lait et de polysaccharides. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.co.id En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop de l'Indonésie qui s'appelle Berlian Hutahuruk. Voici la première chanson de Berlian Hutahuruk intitulée « L'ouragan passe certainement ». Bonne écoute. Serditeur, c'était la chanson de Berlian Hutahuruk intitulée « L'ouragan passe certainement ». Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ce.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook « Voice of Indonesia » ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Berlian Hutahuruk, née le 11 octobre 1957, est une chanteuse avec la voix de soprano qui est très populaire avec l'album fait par Eros Djarot intitulé « L'ouragan passe certainement » en 1977. Elle ne croit pas que cet album peut être l'album de tous les temps en Indonésie et elle est très connue grâce à cet album. Auparavant, Berlian Hutahuruk a gagné le deuxième champion au Festival Pop de Jakarta en 1975 et le quatrième champion au niveau national en 1975. Serditeur, écoutons maintenant la chanson suivante de Berlian Hutahuruk intitulée « Dirimu Satu ». Bonne écoute. Cinquième antenne, je vous rappelle que vous êtes avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse de pop, Berlian Hutahuruk. En plus de succès dans le monde de la musique indonésienne, des chansons de Berlian Hutahuruk sont devenues la bande sonore et le titre de films indonésiens à cette époque comme L'Ouragan passe certainement. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici des dernières chansons intitulées « Bonne écoute et à bientôt ».
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était quelques chansons indonésiennes. Ainsi, ça termine la mission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.